Bon, au lendemain de cette défaite, autre défaite du Canadien de Montréal contre le Wild du Minnesota, on lui parle à tous les vendredis. Arpin Basu de The Athletic qui est avec nous. Arpin, comment vas-tu?
Ça va bien, les gars, comme toujours, vous autres?
Ouais, très bien. Merci, Arpin.
Là, Arpin, on a plein de dossiers avec toi. On a hâte de t'entendre. Là, de comment tu interprètes beaucoup de choses. Kent Hughes, Arpin a dit, qu'il va prendre des notes sur le jeu de ses joueurs cette saison, en fait, prendre des prochaines décisions importantes. Qu'est-ce que tu penses de son commentaire? Puis selon toi, quel joueur qui cible?
Ben, qu'est-ce que je pense de son commentaire? Ça va de soi. C'est essentiellement ce qu'il a dit au tournoi de golf. Oui, il parlait d'être dans le mix, mais je pense que la première chose, la chose la plus importante que Ken Hughes a dit au tournoi de golf, c'est que on sort d'une phase, puis on rentre dans une autre, de la reconstruction. Puis quand je l'ai demandé après son discours, j'étais comme, ben, si tu sors d'une phase, tu rentres dans quelle phase? Puis essentiellement, il est dans la phase de prendre des données. Tu sais, il était dans une phase avant où l'organisation cherchait juste ajouter des acquis, des choix de repêchage, des jeunes joueurs. Ce que tu sais, n'importe quoi, sans vraiment avoir un plan. C'est juste d'aller chercher des choses puis les accumuler. Là, ça, c'est fait. Il y a une bonne base d'espoir, de choix au repêchage, des jeunes joueurs. Là, c'est d'évaluer ces joueurs-là, puis voir lesquels vont l'aider quand l'équipe est prête à compétitionner. Alors, je pense que quand il a dit ça, c'est ça qu'il disait. C'est ça qu'il voulait dire, c'est que je suis en train d'apprendre des choses sur nos joueurs. Je pense pas nécessairement qu'il visait un joueur spécifique, mais c'est clair en regardant, tu sais, comme exemple, le fait que Justin Barron n'est pas capable de percer l'alignement, ça donne l'information au groupe. C'était quelqu'un que je pense que l'organisation espérait, évidemment, quand ils ont échangé Arthur Lehkonen, que ça serait quelqu'un qui jouerait du côté droit, la défensive. Là, ils sont en train de jouer 5 gauchers au lieu de faire jouer Justin Barron. Je pense que ça donne beaucoup d'informations à Ken Hughes et Jeff Corton. Kirby Dax en est un autre. Si Kirby Dach n'est pas capable de jouer au centre, on en a parlé plusieurs fois déjà. Si c'est pas le deuxième centre de cette équipe-là, c'est un trou béant dans l'organisation qu'il va falloir remplir d'une façon ou l'autre. Puis si tu dis, bon, ben Michael Hage pourrait être ce joueur-là ou un joueur qu'ils vont repêcher en 2025, pourrait être, tu sais, ça va prendre du temps avant que ce joueur-là est prêt à jouer ce rôle-là. Alors, si c'est pas Kirby Dach, il va falloir trouver à combler ce trou-là d'une autre façon. Alors, ça, c'est juste deux exemples. C'est pas pour viser ces joueurs-là, mais je pense qu'il prend beaucoup d'attention à Arbor Jack Tyre en internaute, puis le fait qu'il va mieux dernièrement, il commence à jouer d'une façon plus responsable, sa tête est moins remplie de trop de choses qu'il paralysait sur la glace avant. Il joue beaucoup plus smooth, puis il a pas peur de faire des erreurs. Ça donne l'information à l'organisation. Alors, je pense que c'est pas surprenant que Ken Hughes a dit ça, parce que tout le monde s'est focusé sur être dans le mix. Donc, Ken Hughes et tout le monde a dit ça dans le fond au tournoi de golf, mais la chose la plus importante que Ken Hughes a dit à ce moment-là, puis il l'a répété l'autre jour à Toronto, c'est que l'organisation est dans cette phase-là où il faut commencer à apprendre tous les joueurs qui ont accumulé, apprendre c'est qui ces joueurs-là, puis qui peut nous aider dans l'avenir, puis qui peut pas nous aider essentiellement.
Ah, tu as bien parlé du jeu de Jacky également, avec Struble. Je trouve qu'ils ont quand même stabilisé leur jeu. On n'en parle pas assez. On aura la chance d'en reparler, j'imagine, Arpin. On t'amène sur une autre déclaration de Kent Hughes qui disait que il faut pas s'attendre à des rappels de Laval non plus. En raison des succès du club école, pis c'était super intéressant ce qu'il disait, parce qu'il disait, bon, on pourrait les rappeler, puis oui, ça aiderait l'équipe, mais est-ce qu'on va avantager le développement à moyen et à long terme? Est-ce que tu as été, peut-être pas étonné du commentaire, mais à quel point tu l'as trouvé intéressant pour voir, OK, il y a peut-être des jeunes qui prennent des mauvaises habitudes à Montréal, mais au moins, on veut que certains autres apprennent à gagner à Laval.
Oui, je pense que c'est normal. Écoute, je pense pas qu'il y ait des joueurs à Laval qui vont régler la situation du Canadien. Oui, pour aider un peu, mais s'il n'y a pas de solution qui se trouve à Laval, à long terme, il y a des solutions qui se trouvent à Laval. Puis en fait, l'équipe de Laval en ce moment, c'est le plus intéressant dans ce sens-là. Depuis, je pense qu'il y avait comme Piqué Subban et Max Pacioretty et Carey Price à Hamilton, pas tout ensemble, mais en tout cas, de cette époque-là. Là, il y a des joueurs qui vont faire partie de la solution à Montréal, sauf que ça ne serait pas cette année. C'est Owen Beck, je pense, il fait partie de la solution à Montréal. Qu'est-ce que ça donne de l'amener dans un environnement où l'équipe en arrache, ils ont de la misère à accumuler des victoires, puis là, à Laval, ils sont en train de gagner à chaque match. Je pense que c'est ça son point. C'est que, et je pense que l'expérience avec Logan Mailloux a été un peu, un petit leçon aux Canadiens de qu'est-ce qui peut arriver de mal en faisant ça? Logan Mailloux est arrivé, il a eu un échec de confiance, mettons, quand il était retranché à la fin du camp d'entraînement. Il est allé à Laval, il a bien joué, il a accumulé plein de points. Il revient à Montréal, alors il a un boost de confiance, puis dans les quelques matchs qu'il a joué, cette confiance-là était complètement battue encore. Il retourne à Laval, il va bien. Alors peut-être, c'était un signe que, je pense que c'était un signe pour l'organisation que soyons certains, quand on fait des rappels de Laval, que le gars est prêt. Puis il viendra pas à Montréal pour avoir un échec, dans le fond, puis se sentir mal de la façon qu'il joue. On veut que ces jeunes-là, que leur confiance soit battue d'une façon comme linéaire, qui monte. Alors, je pense que ce leçon-là, combiné avec le fait que l'environnement à Laval, maintenant, est beaucoup plus propice au développement des joueurs que le Canadien en ce moment, je pense que ça a beaucoup de sens. Tu sais, c'est comme, ça fait longtemps que l'équipe, le club école du Canadien était dominant dans la Ligue américaine, là. Ça fait longtemps parce que c'est pas la priorité de Laval ou Hamilton avant ça. Ou quand il était en Terre-Neuve, c'était pas la priorité. Puis cette année, ils l'ont dit, c'est le développement des joueurs qui est la priorité à Laval. Ben, si tu peux développer dans un environnement gagnant, c'est gagnant-gagnant. Alors, c'est ça ce qu'ils ont en ce moment. Je vois pas pourquoi ils changeraient ça juste pour avoir comme un band-aid à Montréal à court terme.
Mais justement, Arpen, puis on est d'accord avec toi que tu vas pas changer ce qui se passe à Laval, ça va bien, mais pour toi, OK, si le Canadien continue de perdre puis on fait rien, à quel point ça peut affecter le développement des jeunes qui sont à Montréal? Puis, tu sais, des jeunes qu'on voit comme des joueurs d'avenir, mais tu sais très bien, Arpon, que s'ils continuent à s'enliser comme ça, tu l'as dit toi-même, en ce moment, il y a une régression et non une progression. Fait qu'il faut que tu fasses quelque chose si le Canadien continue de perdre, non?
Ben, pas nécessairement, parce que c'est en faisant des gestes dans des situations comme ça que tu commets que tu fais des erreurs. C'est des choses que tu vas regretter. Et je pense que la façon que je pense que Kent et Jeff Gorton ont vu la situation, c'est que, écoute, si on est capable d'être dans le mix et si on est capable d'aider cette équipe-là à la date limite, on a plein de choix au repêchage pour faire ça. On va pas jouer à nos, on va pas toucher à nos espoirs. On va pas toucher à nos jeunes joueurs. Mais on a cette banque-là de choix au repêchage parce qu'à un moment donné, c'est bien beau avoir des choix au repêchage, mais quand tu as déjà une banque aussi remplie d'espoir, il y a une limite à combien d'espoir tu peux avoir, il y a une limite à combien d'espoir tu peux donner des contrats. Alors, je pense qu'ils voyaient ça comme monnaie d'échange, mais être dans la situation actuelle, ils sont pas capables de le dire publiquement, mais écoute, est-ce que ça nuirait à l'organisation d'avoir un autre haut choix au repêchage et ajouter un joueur de talent, ajouter un centre de talent. Tu sais, je pense que les partisans du Canadien devraient peut-être porter un peu attention à la cuvée de repêchage. Je sais qu'ils ont tanné de le faire, mais il y a deux choses qui arrivent s'ils font rien. Ils apprennent. Leur jeune vétéran, là, Nick Suzuki, comment est-ce qu'il va aider l'équipe à sortir de ça? Kirby Dach, Paul Caulfield, Juraj Slafkovský, Caden Gooley. Il y a des choses à apprendre sur ces joueurs-là. Puis je pense qu'il y a une valeur là-dedans pour l'état-major du Canadien. Et si ça donne que tu es capable d'ajouter une autre jeune talentueux dans le top 3 ou top 5 du repêchage, même si c'est ton but de ne pas le faire, si ça donne que ça arrive, bon, mais tant mieux. Alors, je pense que dans les deux sens, il n'y a pas grand-chose qu'il peut faire. T'sais. Je pense que le retour de Laine va démontrer quelque chose. Si lui est capable d'aider, fine, il est là déjà. Mais d'aller faire un échange parce que l'équipe va mal, tu fais jamais un bon échange dans ces circonstances-là. Alors, je pense avoir de la patience puis juste regarder ce qui se passe puis voir comment tes joueurs réagissent à la situation, je pense que ça a une valeur pour le Canadien puis j'ai l'impression que c'est ça qu'ils vont faire.
Larac, Gonzalez, sur BPM Sport.
De retour avec notre ami Arpin Basu, on en parlait de Kirby Dach. Très décevant son match hier, très décevant. On comprend qu'il revient d'une blessure et tout le reste, mais c'est dans la mollesse de son jeu. Souvent, il y a une main sur le bâton, l'effort n'est pas là. On en a brièvement parlé, mais tu fais quoi pour la suite? À quel point, on l'a souvent dit, mais son cas est directement relié à la reconstruction puis au rythme de la reconstruction. Est-ce que ça commence à t'inquiéter?
Ben écoute, l'autre jour, j'ai demandé à Martin c'est quoi le cheminement pour que Kirby Dach revienne au centre. Puis Martin a dit je sais pas. Ce qui est le
Ouf,
priorité
ouais.
en ce moment, c'est qu'on retrouve le Kirby Dach à ses pleins moyens, à ses meilleurs, c'est la meilleure version de Kirby Dach. On le retrouve toujours. Et c'est ça la priorité, alors c'est ça qu'ils vont faire. Et s'ils pensent qu'il va le retrouver à l'aile, mais tant mieux. C'est plus ou moins grosso modo ce que Martin a dit. Pour moi, si tu parles de développement, si tu parles de prendre de l'information, moi, je le remettrai au centre tout de suite, même s'il ne le
Ouais.
mérite pas. Parce qu'hier, tu sais, je le regardais aller sur le premier powerplay. Tout de suite, ce qui est rentré dans ma tête, c'est tu devrais enlever ce gars-là du premier powerplay. Il donne pas l'effort nécessaire. Il prend pas soin de la rondelle. Il est juste pas efficace en jeu de puissance. Alors, c'est moi, pour lui lancer un petit message, je l'enlèverais du powerplay. En fait, puis je le mettrais peut-être même pas sur le deuxième powerplay non plus, mais tu sais, mettre Heinemann, par exemple, dans ce spot-là, un gars qui peut tirer du côté droit, ça pourrait être bénéfique et ça serait une récompense pour un gars que je trouve démontre une certaine constance dans son jeu dans un rôle très limité sur le quatrième trio, mais il montre des choses quand même intéressantes. Puis encore une fois, si l'état-major prend de l'information, je pense qu'un Heinemann envoie des bons messages que je peux jouer un rôle dans cette équipe-là potentiellement quand ils sont prêts à compétitionner. Kirby Dach, en ce moment, il envoie pas ce message-là. Alors, moi, je le remettrai au centre, puis dis, écoute, figure it out, tu sais, va jouer, puis fais donc, parce que nous, on a besoin que tu joues au centre. Pas juste cette année, mais surtout dans 2, 3 ans, on a besoin que tu sois notre deuxième centre. Alors, démontre-nous que t'es capable de le faire. Et sinon, il va falloir qu'on agisse en conséquence, puis il va falloir qu'on cherche un autre centre. Et ce serait très compliqué à faire, c'est pas facile. Aller chercher un centre de top 6 sur le marché des transactions et sur le marché des joueurs autonomes. Tu sais, ces joueurs-là coûtent beaucoup, puis il faut que tu donnes plein d'années en termes de contrat. Alors, ça serait compliqué. Alors, c'est ça que je ferais, mais en ce moment, admettons que son jeu est loin d'être inspirant, puis il donne des mauvaises informations à l'état-major en ce moment.
Mais justement, Arpen, est-ce que la question elle était posée à Martin Saint-Louis? Parce que, tu sais, Martin Saint-Louis a parlé de hard coaching, OK? Tu l'as dit toi-même, puis tu as raison. On devrait l'enlever de la première vague en avantage numérique, puis peut-être même le muter sur un troisième trio. Si tu fais du hard coaching, puis un gars le mérite pas, est-ce que la question était posée à Martin Saint-Louis, pourquoi tu lui donnes encore des nananes alors qu'il ne mérite pas avec son effort?
Ben, c'était pas demandé de cette façon-là, mais je pense que la réponse à ma question, comment tu retrouves ou qu'est-ce qui doit arriver pour que Kirby Dach retourne au centre, ça démontre tout, tu sais. Martin, le Canadien, l'organisation au complet, puis Martin est parmi ce monde-là, ils ont en tête la version de Kirby Dach qu'on a vue il y a 2 saisons. T'sais. Ce gars-là, c'est un joueur super intéressant. Il était tellement bon en échec avant, puis pas échec avant, mais honnêtement, en récupérant des rondelles que l'équipe avait perdues en zone offensive, il le faisait à chaque match. Il enlevait des rondelles par en arrière, il patinait fort en repli, puis gagnait beaucoup de rondelles. Puis ça menait à beaucoup de temps en zone offensive, ce qu'il fait pas du tout maintenant. Mais ça fait partie de son jeu. Alors, je pense que l'organisation, et Martin s'est inclus là-dedans, ils ont ce joueur en tête, puis ils sont engagés d'aller retrouver ce joueur-là. Est-ce que ce joueur-là existe encore? C'est ça que Kirby Dach doit démontrer. Puis honnêtement, je les blâme pas parce que moi aussi, en le regardant jouer, surtout pendant le camp d'entraînement l'année passée, écoute, il est sorti, puis je l'ai dit à vous autres plusieurs fois, il est sorti du camp d'entraînement, il avait l'air du meilleur attaquant du Canadien. Et ça fait juste un an qu'il était comme ça. Alors, quand tu as ça en tête, t'as comme une priorité d'aller retrouver ce joueur-là parce que s'il peut le faire, c'est un joueur qui serait un difference maker pour cette équipe-là. Le joueur qu'on voit en ce moment n'est pas ce joueur-là, mais je comprends un peu avoir un peu de patience parce qu'ils ont vu le plafond de ce joueur-là, puis le
Ouais.
plafond de ce joueur-là est très intéressant. Sauf que là, il est en train de démontrer que son plancher est de moins en moins haut à chaque match qu'il joue quasiment. Tu sais, je pense à date, il a peut-être joué 3, 4 matchs où il avait l'air efficace et c'est pas assez. C'est pas assez de constance de ce gars-là. Et il va falloir que quelque chose clique. Et je pense que le muter sur un troisième trio, de l'enlever du jus de puissance, ce serait une façon de passer ce message-là, mais clairement, Martin n'est pas arrivé là encore.
Ouais, le Canadien n'a pas encore la profondeur. Je suis d'accord, tu dis, il joue. Oui, on l'a vu, puis il joue correct, mais il n'est pas dominant comme on l'a déjà vu par le passé. Parlant d'un gars qui pourrait être dominant, puis c'est pas normal, on en parlait avec Georges, je veux dire, c'est une recrue, c'est un gars qui n'est pas intimidé, que ce soit à la route ou sur la maison, c'est la même chose match après match, Lane Hudson. Il fait tout presque sur une glace Harpin. À quel point tu sais qu'il joue comme ça sur la route puis qu'il soit constant, j'imagine que ça t'impressionne toi aussi.
Ce qui m'impressionne le plus, c'est la façon qu'il s'ajuste. Tu sais, il comprend que oui, il a l'habileté de faire des flamèches n'importe quand, mais il comprend que dans le rythme d'un match de la Ligue nationale et avec la qualité des joueurs dans la Ligue nationale, c'est pas approprié de le faire à chaque fois que tu as la rondelle. Alors là, il commence à choisir ses moments. Et en faisant ça, il devient moins prévisible. Et en étant moins prévisible, il va être plus efficace quand il décide de faire des jeux. Et alors ça m'impressionne parce qu'on est même pas, on est mi-novembre, ça fait un peu plus qu'un mois que ce gars-là est dans la Ligue nationale, puis déjà il démontre une capacité de s'ajuster et de comprendre que oui, t'as plein d'habiletés, mais les joueurs adverses ont beaucoup d'habiletés aussi. Ils ont des habiletés défensives que les joueurs en collège avaient pas. Puis il a compris ça très rapidement. Il y a une couple de revirements qui ont coûté très cher aux Canadiens, puis il a pris la leçon, puis il l'applique à merveille. Alors, ça, c'est très intéressant pour moi parce que ça serait normal pour un gars comme ça, particulièrement avec la façon qu'il a déjoué tellement de joueurs au tout début de la saison, de dire « OK, ben je peux faire ça quand je veux, c'est bien correct, puis je vais créer plein d'offensives, puis je vais être sur les highlights, puis la foule va m'adorer, je vais continuer à faire ça. » Il n'a pas fait ça. Il a décidé que oui, j'ai mis mon équipe dans le trouble une couple de fois, j'ai pas aimé ça, je vais choisir mes moments un peu plus, d'une façon un peu plus calculée. Puis c'est ça qu'il est en train de faire, puis ça m'impressionne. Hier soir, il y avait plusieurs occasions où il aurait pu patiner avec la rondelle un peu plus longtemps, il aurait pu le garder, mais il a vu qu'il y avait un coéquipier qui était ouvert, puis il a juste donné la rondelle. Il a joué le jeu, comme Martin aime dire. Mais moi, j'en ai parlé avec lui, puis c'est ça, c'est que c'est la deuxième couche de couverture défensive qui commence à lire. Et s'il voit que oui, je peux battre ce gars-là, mais même si je le bats, j'ai deux autres gars qui sont là, puis les chances que je les bats eux aussi est très bas. Alors, je vais pas prendre cette opportunité-là. Je bouge la rondelle en espérant que je vais le recevoir encore, puis que la couverture serait un peu moins tight, puis je serais capable de créer une ouverture avec mes habiletés. Alors, le fait qu'il commence à comprendre ça, c'est très encourageant, parce que s'il trouve cet équilibre-là, ce qu'il est en train de trouver en ce moment, je pense qu'il va être un joueur hyper dangereux pendant très longtemps à Montréal.
Pierre Pond, pour finir, la situation de Kaden Primo, selon toi, qu'est-ce que le Canadien va faire avec lui, parce que c'est une
catastrophe. C'est difficile, là. C'est moi, je pense que la façon que Kaden joue veut dire que t'as pas beaucoup de risques à le mettre au ballottage, puis le renvoyer à Laval. Puis la façon que Connor Hughes joue à Laval, avec son bagage d'expérience, je pense que ça serait intéressant de le voir, de lui donner une chance. Je pense que l'équipe qui faisait peur aux Canadiens en termes de ballottage l'année passée, c'était New Jersey, à mon avis. Je pense que c'était ça. Alors là, ils sont plus une menace pour aller le chercher. Puis j'ai mal à voir une équipe qui va voir Kaden Primeau comme une solution devant le filet dans la Ligue nationale. Parce que si tu le reclames au ballottage, il faut quasiment que tu le gardes avec toi. Je vois aucune équipe qui va voir la façon qu'il joue en ce moment puis dire « Bon, ça c'est notre homme. » Alors, je pense, prends le risque, mets-le au ballottage, envoie-le à Laval, laisse-le bâtir son confiance là-bas et encore une fois, prendre l'information sur ce gars-là que tu es allé chercher gratuitement, Connor Hughes, qui est allé en finale de la Ligue suisse l'année passée. Il joue très bien à Laval. Et ce que je trouve intéressant, je regardais ses statistiques, effectivement. Puis si tu regardes les gardiens dans la Ligue américaine, ils ont tous des pourcentages d'arrêt de 9-15 et plus. Quand tu regardes la Ligue nationale en ce moment, c'est un pourcentage de 900. C'est comme quasiment au-dessus de la moyenne. Alors, c'est une ligue où je pense que tu peux vite retrouver ta confiance parce que c'est quand même une ligue de gardiens en ce moment, pendant que dans la Ligue nationale, ça devient de plus en plus difficile, même pour les meilleurs gardiens, de faire des arrêts à un taux comme ça. Alors, je pense, les chances qu'il soit réclamé sont assez basses. Le Canadien saura ça mieux que moi. Mais moi, j'aimerais voir ce que Connor Hughes peut faire dans la Ligue nationale parce qu'à date, il joue très bien à Laval, puis c'est un gars qui a quand même un bagage, un parcours qui m'intéresse. Alors, j'aimerais voir ça dans la Ligue nationale.
Harpen, on te souhaite un bon week-end avec le Canadien contre les Jackets et on continue à te lire sur The Athletic. On se reparle la semaine prochaine,
Harpen.
OK, bon week-end, les gars.
Yes, salut. Merci, toi aussi.